Bonjour, vous êtes à l'émission Libre Propos. Au micro, Karine Delamer, à la régie, Simon Martin et mon invité, Mgr Michel Ponsard. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grand Ciel dans notre émission Libre Propos. Le temps des médias n'est pas celui de l'homme. Dans cette émission, notre évêque Mgr Michel Ponsard nous propose des clés de lecture pour mieux comprendre notre actualité. Mgr Ponsard, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour chers auditeurs.
Mgr, le sujet vraiment de cette actualité cette semaine, c'est tout ce qui a trait à la loi Claeys-Leonetti. J'aimerais beaucoup vous poser des questions sur l'impact de cette loi. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça bouscule aujourd'hui?
D'abord, hein, c'est une loi qui aborde une question difficile, hein, y compris qui nous touche tous, hein, parce que hein, nous sommes tous confrontés à la présence auprès de nous, et parfois c'est nous-mêmes qui l'expérimentons, hein, à l'expérience de la fragilité, de la souffrance et de la mort qui se dessine à l'horizon de notre vie. Et donc, voyez, ouais, il y a cette question qui est présente. Vous savez que le débat, puisque actuellement il y a un certain débat sur un projet de loi, est la suite hein, d'un débat qui a déjà eu lieu dans notre pays en 2005 avec ce qu'on appelle la loi Leonetti, qui avait eu, c'est intéressant, elle avait été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Hein, et donc voilà, on a un projet de loi qui s'inscrit enfin dans la suite de cette loi Leonetti et qui veut introduire quelques nouvelles dispositions. Donc s'il y a débat, c'est sur les nouvelles dispositions. Le premier point sur lequel je reviens d'insister, c'est d'abord de peut-être, hein, y compris cette loi, première loi Leonetti, est loin d'avoir été totalement appliquée. Voilà, je suis toujours un peu interrogatif sur un peu cette précipitation comme un peu législative, comme si à partir du moment où une loi était faite, c'était réglé, alors que justement, on sait bien qu'il y a toujours un temps entre la production d'une loi et puis sa mise en œuvre dans une société. Or, en tous les cas, ce que je retiens de la loi Leonetti et de ce projet de loi actuel, c'est hein, ce sont des et tous les rapports hein, qui sont liés à tous ces projets de loi, c'est l'insistance forte qui est donnée hein, au développement accru des soins palliatifs et d'une formation nécessaire.
C'est marqué dans la loi, c'est insisté.
Non, c'est-à-dire c'est dans tous les rapports, c'était déjà dans la loi Leonetti, c'est-à-dire hein, d'entrée, y compris c'est peut-être une originalité hein, un peu française par rapport à d'autres législations, d'entrer vraiment dans un processus et donc avec tout ce que ça vient bousculer hein, dans la manière d'exercer la médecine, de développer une culture palliative. Et donc, hein, c'est un projet de loi qui ne veut pas entrer, et tous les rapports qui sont présents, qui ne veut pas entrer dans une logique de suicide assisté ou dans une logique d'euthanasie. Hein, donc, après, la corde est raide, un peu comme un chemin de crête, et peut, voilà, après, le point d'attention qu'on peut avoir, c'est qu'est-ce qui, dans le nouveau projet de loi, voilà, sur ce chemin de crête hein, et d'équilibre voulu par les deux promoteurs de cette loi, peut entraîner telle ou telle dérive, en particulier si on aborde les choses d'une manière trop juridique, alors que l'essentiel est sur la relation de confiance et d'accompagnement qui peut exister et qui doit exister entre une personne malade et le personnel médical, et en particulier le médecin qui accompagne, justement pour discerner ce qu'il convient de faire. Une assistance aussi, mais c'était déjà de la loi Leonetti, c'est de réfléchir un peu sur ce qui s'est passé hein, dans notre société depuis quelques siècles quand même, hein, entre le moment où avant le développement de la médecine finalement, la fin de vie et la mort se vivaient dans un cercle familial
oui.
Avec d'accompagnement et puis on y faisait face, y compris ce sont les personnes qui faisaient face Avec le développement de la médecine, de la technicité de la médecine, petit à petit, c'est passé plutôt du côté de l'hôpital, avec parfois l'impression que ça échappait totalement à la personne et à l'entourage. Et donc la volonté hein, de ces projets de loi déjà précédents, c'est hein, comment renouer un dialogue et rendre la personne malade elle-même acteur dans tous les processus de décision, d'où la question qui vient ce qu'on appelle des directives anticipées, de hein, comment prendre en compte hein,
La volonté de
la
la personne.
volonté du malade avec la difficulté. Hein, comment prendre en compte une volonté qui a pu s'être exprimée quand on est bien portant, et qu'est-ce qui se passe quand justement hein, les conditions de santé évolue et hein, si vous avez déjà hein, les uns ou les autres accompagné telle ou telle personne malade, gravement malade ou approchant hein, du terme de la vie, nous savons bien que c'est difficile de faire un arrêt sur image et que on entend des propos parfois contradictoires, mais pourtant c'est la même personne hein, et donc on assiste aussi un peu au débat intérieur et puis avec des désirs multiples qui sont difficiles d'ailleurs à figer. Hein, d'où l'insistance, y compris d'un certain nombre d'acteurs par rapport au projet de loi, de dire attention sur la question des directives de fin de vie, des anticipées et rédigées, comment elles vont être rédigées en dialogue avec un médecin. Et pas simplement être une directive qui soit là, qui.
Comme un testament.
Voilà. Hein, et avec la question aussi, faut-il, puisqu'elles sont, ces directives sont révisables, mais est-ce qu'il ne faut pas prévoir une révision régulière, hein, plutôt que. Voilà, ça soit une directive qu'on a écrite, puis 10 ans après, elle est là, et tant de circonstances ont changé. Hein. Voilà. Un des points actuellement aussi qui est en débat, c'est. La question, puisque dans le rapport, Jean Leonetti, Alain Clay, ici, et donc avec le projet de loi qui est proposé, propose un nouveau droit du patient, qui est le droit à une sédation profonde et continue.
Oui.
Donc voilà, la question ici, c'est
Qu'est-ce qu'on met derrière, quoi?
qu'est-ce qu'on met derrière et voilà, comment, qu'est-ce qu'on met derrière tous ces mots, hein? Ça peut être entendu d'une manière, dire voilà, dans certaines situations limites, y compris comment, y compris parce que y compris quand on développe les soins palliatifs, il peut y avoir certaines situations où même là, on ne sait pas gérer la souffrance et à l'approche hein, d'une échéance. Et un peu irréversible, c'est en gros, c'est mettre quelqu'un dans un coma profond. Hein, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de conscience, c'est un endormissement qui entraîne vers la mort. Comment faire que voilà un type de pratique, mais qui pour moi doit d'abord être l'objet d'abord d'une décision médicale et pas juridique. Hein, parce que ça met en œuvre justement ceux qui sont engagés dans un processus de soins et d'accompagnement. Comment voilà, faire que cela ne dérape pas ou ne devienne pas un droit à la sédation pour mourir.
Exactement.
Oui, voyez. Donc c'est toujours subtil, hein, ce genre, parce que ce sont des questions
Ce sont des questions éthiques profondes quand même.
éthiques profondes et puis qui nous touchent tous. Hein, et donc, comment le réfléchir et pas simplement le réfléchir après, simplement d'une manière médiatique, en réagissant sur telle ou telle situation particulière, mais pouvoir, puisque ça c'est le rôle de la loi, pouvoir donner un cadre hein, pour aider tous les acteurs à non pas, comment dire, la grande question qui peut-être sans doute se pose pour nous, c'est comment dans notre société, nous prenons en compte que aucune loi ne supprimera le fait que la mort est difficile.
Oui, c'est ça.
Et qu'elle est toujours une épreuve. pour la personne hein, qui s'en approche. Elle est une épreuve pour tous ceux qui sont attachés, qui sont liés hein, affectivement. Donc voilà, il y a tout, hein. Et donc la question c'est attention à ne pas rêver d'une mort propre. Comme on a parlé de la bombe propre, vous savez, hein,
ou d'une vie éternelle sur Terre.
Ou d'une mort qui serait, enfin, une fin de vie qui serait toujours facile ou apaisée. Mm-hmm. La grande question, c'est comment nous prenons en compte la vulnérabilité, hein, y compris cette vulnérabilité qui est très, très perceptible, justement, quand à un moment donné, il faut tout lâcher. Hein, oui. Comment nous le prenons, cette vulnérabilité, et nous la portons ensemble. Hein, y compris, dont tout l'enjeu, c'est que sommes-nous capables, dans une société, hein, de mettre en œuvre comme fraternité, y compris dans cet accompagnement de la fin de vie. Voilà. Alors que ce soit avec les médecins, donc il ne faudrait pas non plus hein, que ce projet de loi vienne casser finalement aussi la relation de confiance entre une équipe soignante, un médecin et un malade. Mmh. Hein, il ne faut pas que cette relation soit désormais marquée simplement, moi, j'ai laissé une commande.
Oui, c'est ça.
Mettant à mal finalement ce qui est absolument nécessaire. Enfin, je ne sais pas comment vous faites, vous, quand vous allez voir votre médecin, vous avez mal quelque part, vous attendez de ce médecin, d'abord qu'il vous écoute, qu'il essaie de comprendre votre souffrance, hein, et qu'il soit capable de dire, ben voilà, c'est, voilà le mal hein, qui vous atteint, qu'il soit capable de vous expliquer un peu ce qui est en jeu avec des mots relativement simples, qu'il soit capable de vous dire, ben voilà, ce qui est un processus hein, de traitement ou de guérison qui est possible, le type d'effort que ça va vous demander, ou de, voilà, on attend ça. Mmh. Hein, et ça ne peut pas se traduire simplement, donc... docteur, j'ai besoin de ça prescrivé.
Absolument. Hein? Mais pour qu'il y ait relation, Monseigneur, il faut bien qu'il y ait deux personnes. Donc, c'est-à-dire que le patient est une personne jusqu'au bout.
Le patient est une personne jusqu'au bout, et ça veut dire aussi que les médecins, les soignants sont aussi des personnes engagées et qui ne sont pas simplement des prestataires d'actes. Voilà, hein? Donc la question ici, c'est comment aussi, hein, quel type d'évolution, y compris de notre médecine, cela implique. Y compris s'il y a un jeu d'accompagnement, et le jeu d'accompagnement, ça demande aussi du temps d'écoute et d'accompagnement, et pas simplement de prescription ou d'actes à faire. Et donc voilà, ça, hein, derrière ça, il y a une éthique ou une déontologie, y compris hein, médicale, qui est en jeu. C'est derrière tout ça, c'est tout ce que... un certain nombre de ceux qui réfléchissent, c'est tous les rapports, quelles que soient après les convictions éthiques religieuses, mais tous les rapports qui évoquent la nécessité de développer dans notre société, parce que c'est loin d'être acquis, une culture palliative.
Monseigneur, merci pour ces éclairages, et j'aurai plaisir à vous retrouver, chers auditeurs, très bientôt pour une émission de Libre Propos. Au revoir, Monseigneur.
Au revoir, Karine. Au revoir, chers auditeurs.